Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les relations indo-pakistanaises au plus mal, au lendemain d'un attentat particulièrement meurtrier au Cachemire indien. L'incohérence de la politique étrangère américaine soulignée par les États européens à la conférence sur la sécurité de Munich. L'état d'urgence national décrété aux États-Unis pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Explication de Grégory Phillips et commentaire du chercheur Corentin Sellin. Enfin en France, cette idée réarticulée par Édouard Philippe dans la campagne du Finistère. Et pourquoi ne pas demander des contreparties aux citoyens en échange du versement des aides sociales. Précision de Stéphane Robert. 40 morts hier dans une attaque terroriste au Cachemire indien. C'est un des attentats les plus meurtriers depuis 30 ans dans cette région frontalière avec le Pakistan. Il a visé des forces de sécurité indiennes. Le Premier ministre indien promet le pire aux frères ennemis pakistanais accusés d'abriter l'organisation qui a revendiqué l'attaque. Il faut lire ses dernières déclarations à l'aune du calendrier électoral. C'est une correspondance de New Delhi d'Antoine Guinard.
Une journée après avoir condamné, je cite, « un attentat lâche et répugnant commis par un kamikaze au Cachemire », le gouvernement indien a juré ce vendredi d'ostraciser par tous les moyens le Pakistan sur la scène internationale. Le Premier ministre Narendra Modi a également laissé entendre qu'une riposte indienne ne tarderait pas à venir. « Je veux dire aux terroristes et à ceux qui les soutiennent qu'ils ont fait une grave erreur qu'ils paieront au prix fort », a-t-il déclaré. Monsieur Modi a ajouté qu'il avait donné carte blanche à l'armée indienne pour décider de l'échéance et de la nature de cette riposte. L'ensemble de la classe politique indienne ainsi que de nombreuses personnalités du cinéma ont condamné cet attentat dès jeudi sur les réseaux sociaux. L'indignation et le désarroi partagés par le pays tout entier a parfois tourné à la violence. Des étudiants musulmans originaires du Cachemire ont été tabassés en représailles par des foules en colère dans le nord du pays. Des heurts ont également éclaté à Jammu, la ville à majorité hindoue du Cachemire, région où les musulmans sont majoritaires. Cet attentat pourrait exacerber les tensions interreligieuses et ainsi faire le jeu du gouvernement nationaliste hindou au pouvoir en Inde à un peu plus de 3 mois des élections. C'est le 3e attentat depuis 2016 perpétré contre l'armée indienne par le Jaïch-e-Mohammed, un groupe terroriste basé au Pakistan. De son côté, Islamabad nie toute implication dans cet attentat.
Le secrétaire d'État américain par intérim, Patrick Shanahan, qui participe à la conférence sur la sécurité de Munich où sont réunis de hauts responsables politiques et diplomatiques d'une quarantaine de pays, le chef du Pentagone peine à convaincre ses partenaires de la coalition anti-État islamique d'établir une présence militaire au nord de la Syrie. Autrement dit, le chef du Pentagone peine à mettre en application la décision de Donald Trump de retirer ses troupes de cette zone de guerre. Le multilatéralisme perd de l'altitude, les relations internationales se cherchent une cohérence et les Européens ne manquent pas de le rappeler à la puissance américaine, Ludovic Piétenu.
C'est bien, en tout cas, après ces premières heures de discussion entre experts et grands de ce monde, dans une conférence pourtant réputée très atlantiste, très pro-américaine, la petite musique qui se dégage, ce sont ces attaques verbales contre les États-Unis, contre la politique étrangère de Donald Trump, notamment le retrait prochain des 2000 soldats américains de Syrie. Sur scène, face à son collègue américain, un sénateur républicain, le ministre français des Affaires étrangères avoue son incompréhension. Jean-Yves Le Drian.
Il y a pour ma part un point que je ne comprends pas tout à fait dans la politique américaine dans cette région, c'est comment est-ce que l'on peut être très ferme à l'égard de l'Iran et en même temps abandonner le nord-est de la Syrie comme cela, alors qu'on sait très bien que la fin de l'histoire risque de favoriser la présence iranienne dans la zone. Pour moi, c'est un mystère. Et vous avez commencé à éclairer mon mystère en disant que les capacités américaines vont rester. Tant mieux! Je ne le savais pas, je l'apprends, je m'en réjouis.
Cette ironie du ministre français des Affaires étrangères donne une idée des critiques qui sont formulées ici à Munich, notamment par différents dirigeants politiques européens à l'égard des États-Unis de Donald Trump. C'est une inquiétude que l'on peut retrouver dans le rapport dressé ici chaque année au moment de cette conférence. Je cite, la position des États-Unis dans le monde pourrait bien pour la première fois être menacée davantage par sa propre politique intérieure et populiste que par l'ambition de puissances étrangères.
Il n'y a pas lieu de critiquer de la sorte le président. La Maison-Blanche martèle ce soir que c'est un homme de parole et qu'il tient ses promesses. Celles-là même qui flattèrent les plus bas instincts d'un électorat électrisé par les questions d'immigration. Donald Trump vient de décréter l'urgence nationale afin de dégager l'enveloppe nécessaire à la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Nous sommes comme convenu en ligne avec notre invité, spécialiste des États-Unis. Bonsoir Corentin Sellin.
Bonsoir.
Et avant d'échanger avec vous, prenons le chemin de Washington. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Mathieu.
Grégory, ce soir les démocrates promettent eux de riposter et surtout les fronts.
Oui, en fait, dès hier soir même, la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, disait qu'elle se réservait toutes les options pour contester cette urgence nationale, parlant même d'abus de pouvoir de la part de Trump. Vous savez qu'en vertu d'une loi qui date de 1976, le président américain a le pouvoir de décréter cette urgence en fonction de telle ou telle situation. Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. On pense à W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 ou à Obama au moment d'une grave crise de grippe H1N1. Mais ce que les démocrates contestent, c'est bien la réalité de cette urgence migratoire, la réalité de ce que Trump a qualifié dans son discours tout à l'heure à la Maison Blanche d'invasion. Donc oui, il va y avoir des recours. Oui, on sait que l'État de New York, par exemple, s'apprête à saisir la justice. L'État démocrate de Californie pourrait suivre. Trump et ses conseillers s'attendent à cette bataille juridique. Et s'il le faut, eh bien, nous irons devant la Cour suprême, a martelé tout à l'heure le président. Donc en résumé, un bras de fer s'arrête, celui sur le budget du gouvernement. Compromis trouvé, pas de shutdown, pas de paralysie des administrations. Mais un autre bras de fer débute ce soir pour contester donc cette procédure d'urgence nationale que Donald Trump a signée tout à l'heure à la Maison Blanche, juste avant de partir en week-end en Floride.
Grégory Phillips, vous restez avec nous. Quentin Célin, quelle efficacité prêtée à cette riposte, ou plutôt à ces ripostes démocrates ?
Alors, il faudra attendre de voir. Il va y avoir, dans un premier temps, une riposte politique, puisque les démocrates de la Chambre ont 15 jours pour proposer une résolution commune avec le Sénat, qui lui est à majorité républicaine, pour bloquer la déclaration d'urgence nationale de Donald Trump. Il faudrait que cette riposte politique soit adoptée par une majorité des deux tiers dans les deux chambres, ce qui paraît hautement improbable. Et ensuite, on passera à des procédures judiciaires qu'a rappelé Grégory Phillips. Mais là, l'issue en est totalement incertaine. On ne sait pas dans quel sens les cours fédérales et éventuellement la Cour suprême trancheraient.
Grégory Phillips.
Oui, il va falloir voir effectivement la réaction politique, comme le disait Corentin, et c'est vrai que Trump l'a dit tout à l'heure dans son discours, on n'en serait pas là s'il n'y avait pas une élection en 2020. Ça y est, on est en train de jouer la présidentielle de 2020, et le bras de fer politique qui s'engage notamment sur cette question de l'immigration et encore plus du mur va être intense, on le sait déjà. Pelosi est en première ligne pour attaquer Trump sur ses projets et sur cette procédure d'urgence. Donc ce qui joue là, c'est évidemment le mur, la promesse de campagne de Trump en 2016, mais aussi évidemment ce qui va jouer dans les prochains mois, à savoir les préparatifs de la présidentielle.
Alors on est en campagne. Corentin Célin, quel rejaillissement peut avoir cette décision de décréter l'état d'urgence nationale sur le parti républicain ?
Alors, il y a un double impact. Ce que recherche Trump en premier lieu, c'est rassurer son socle nationaliste et identitaire, qu'il a trouvé faible durant le shutdown face à Nancy Pelosi, qui a trouvé qu'il avait cédé par rapport à cette promesse, ce mur qui a galvanisé cette base nationaliste et identitaire. Donc, dans un premier temps, il veut rassurer sa base. Mais en rassurant sa base, il inquiète les élus et en particulier les sénateurs républicains. Parce que les sénateurs républicains se disent, si cet état d'urgence, cette déclaration d'urgence nationale est validée par la justice, demain, elle pourrait être utilisée par un président démocrate dans l'avenir et court-circuiter un congrès républicain. Et donc, les sénateurs républicains ont très peur de cette méthode de Donald Trump. Alors, jusqu'où iront-ils ? Iront-ils jusqu'à voter massivement la résolution commune que proposera, j'en parlais, la Chambre démocrate ? On le verra, c'est peu probable, mais en tout cas, il y aura une partie des sénateurs républicains qui se dressera contre Donald Trump.
Grégory Phillips.
Après, ce que Trump dit, c'est que tous ses prédécesseurs depuis 76 ont utilisé cette urgence nationale. Je l'évoquais tout à l'heure pour des raisons diverses. Et Trump a beau jeu de se placer en victime. C'est en tout cas ce qu'il a dit dans son discours, en disant « Regardez, moi je déclare l'urgence nationale et on m'attaque évidemment. Je suis habitué à ça. Les démocrates font de l'obstruction. » Donc Trump met en avant que tous les présidents américains ces 30 dernières années ont joué de cette urgence nationale et met en avant le fait que lui est bien quand il le fait, il est attaqué de toutes parts.
Alors, un dernier point, et pour en terminer avec vous deux, Grégory Phillips, les commentateurs vedettes de Fox News avaient traité de loser Donald Trump. Est-ce qu'il a pu être piqué au vif ? Je sais que c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais tout de même.
Écoutez, certainement, vous savez, il y a une polémiste ultra-conservatrice qui s'appelle Ann Coulter, qui a vraiment un écho dans la frange la plus à droite de la droite américaine. Et quand le compromis budgétaire a été validé hier par le Congrès, un compromis budgétaire pour le mur beaucoup moins important que ce que Trump réclamait, eh bien, elle a accusé le président américain d'avoir vendu, d'avoir abandonné l'Amérique. Donc, il y a effectivement une pression très forte de la frange la plus nationaliste, on va dire, de l'électorat de Trump et qui fait évidemment pression sur le président.
D'un mot finissant, Corentin Célin, est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de son aura auprès du cœur de son électorat et surtout auprès de ses sénateurs, vous le disiez, mais est-ce que cette longue séquence n'a pas fait mal, en quelque sorte, à Donald Trump en pleine campagne de réélection ?
Oui, incontestablement. D'une part, il y a eu une chute entre novembre et début février dans les sondages d'approbation. Hein. Il est passé d'environ 43% en moyenne à 38%. Mais auprès de son camp, c'est très intéressant ce que disait Grégory Phillips, parce que cette fameuse Ann Coulter, elle a déjà réagi à l'annonce de la déclaration d'urgence nationale, et elle a dit que Donald Trump s'adressait aux plus idiots de ses supporters avec une arnaque qui était cette déclaration d'urgence nationale. Donc on voit qu'il y a toute une partie de son socle, et en particulier Coulter, qui est une personne très importante dans cette frange nationaliste identitaire, qui ne reviendra pas, et la déclaration d'urgence nationale ne suffira pas. Donc il y a vraiment une première, effectivement, fracturation dans ce socle nationaliste et identitaire de Donald Trump.
Merci à vous, Corentin Célin, spécialiste de politique américaine, et merci à vous, Grégory Phillips, en direct de Washington. Au Zimbabwe, de 60 à 80 mineurs auraient péri au fond depuis de mines d'or désaffectées à la suite d'inondations dans le centre du pays. C'est le dernier bilan livré par les autorités. Un pays qui souffre depuis des décennies des prédations économiques des années Mugabe. Il est presque 22h12, vous écoutez le journal de France Culture. Emmanuel Macron a décidé il y a quelques heures d'instaurer une journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme. Ce sera le 11 mars en France, coïncidant avec la journée du souvenir de l'Union européenne. La première cérémonie sera organisée le 11 mars 2020, en concertation étroite avec les associations de victimes et d'aide aux victimes. Les injonctions contradictoires. Quoi de mieux pour un ballon sonde dans le cadre d'un moment d'écoute en pleine crise à 3 mois d'un scrutin? Le Premier ministre, en déplacement dans le Finistère, réfléchit à haute voix à un sujet éventé qu'il s'empresse de qualifier d'explosif, demander des contreparties aux citoyens en échange du versement d'aide sociale. Stéphane Robert.
Et si on exigeait un certain nombre de contreparties en échange des droits et des prestations qu'on accorde? C'est la question soulevée ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe depuis Plomodierne dans le Finistère.
C'est un sujet explosif. Moi, ma conviction, c'est une conviction personnelle, c'est que compte tenu de l'importance de nos mécanismes de solidarité, compte tenu de nos finances publiques, il faut qu'on s'interroge sur ces contreparties. Et c'est indispensable d'avoir des mécanismes de solidarité. On est un pays où la solidarité, ça compte. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de s'interroger sur est-ce que cette solidarité, elle peut s'accompagner de contreparties, d'activités d'intérêt général. Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité?
Cette proposition n'est pas nouvelle. Laurent Wauquiez en avait proposé d'en instituer le principe lorsqu'il était ministre de Nicolas Sarkozy en 2011. Et le département du Haut-Rhin en Alsace l'a mise en place depuis le 1er janvier 2017 sur la base du bénévolat. Environ 800 allocataires du RSA, le revenu de solidarité active, effectuent aujourd'hui quelques heures de travaux d'intérêt général en échange de leur allocation. Alors, il ne s'agit pas de prendre cette proposition du Premier ministre au pied de la lettre. Il n'annonce pas sa mise en place prochaine. Non, il faut y voir deux objectifs pour Édouard Philippe. Premièrement, l'exécutif est actuellement en phase de reconquête en vue des élections européennes de mai prochain et il sait que c'est à droite que se situent les réserves de voix pour En Marche. Et cette mesure, qui s'adresse plutôt à un électorat de droite, vise donc à montrer qu'on est en phase avec cet électorat. Deuxièmement, il faut voir cette annonce comme un test, vous le disiez, lancé en direction de l'opinion. Le gouvernement multiplie les ballons d'essai depuis le début de l'année. L'exemple récent de la suppression d'un certain nombre de niches fiscales en était un. Et pourquoi pas donc aujourd'hui des contreparties en échange des prestations sociales. L'idée là est sans doute de suggérer un certain nombre de propositions dont pourrait peut-être s'emparer la population dans le cadre du grand débat.
Stéphane Robert, Timid Friday for Future en France. Près de 200 manifestants contre l'inaction climatique dans les rues de Paris. Alors que des milliers de jeunes ont défilé au Royaume-Uni et en Belgique. Fridays for Future, c'est le mouvement de la militante suédoise Greta Thunberg qui invite écoliers et étudiants à défiler tous les vendredis pour interpeller les gouvernants. Quelques mots de la météo de demain avant de refermer le journal. Une journée ensoleillée à peu près partout. Beaucoup de gelées matinales à attendre au lever du jour. Et des températures élevées pour la saison selon Météo France. Dans l'après-midi, ces températures maximales seront comprises entre 12 et 16 degrés au nord de la Loire, jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Chloé Leblond, à la technique Nasser Moussaoui.